Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer avec le père José Willibald Michaud de Maritsou, la lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous en sommes au chapitre 5 et nous allons voir ici la fameuse guérison d'un paralytique à Jérusalem. Je vais vous lire ce passage pour nous le mettre dans l'esprit et dans le cœur. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethzatha. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Or, ce jour-là était le jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Mais il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà bien portant. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit « « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. » Le début du chapitre 5, Père José, c'est tout à fait frappant. Jésus s'adresse à quelqu'un qui est un petit peu laissé pour compte, qui a l'air un peu à l'abandon, en quelque sorte.
Mais le contexte, d'ailleurs, on dit bien, il y avait là une foule de boiteux, d'infirmes. C'est le contexte, ce sont des exclus, des rejetés, oui, des laissés pour compte. Et donc, qui sont, celui dont qui nous intéresse, condamné à l'immobilité, donc à l'immobilité forcée. Et il y aura donc un contraste entre l'immobilité interminable de 38 ans et le fait qu'il se lève et il marche. Donc c'est quelqu'un, un homme qui est remis en marche.
Ce qui est frappant, Père José, ce sont justement tous ces détails. Oui. Il y a le fait qu'il a là depuis 38 ans, et puis cette fameuse piscine possède 5 portiques. Il y a des tas de détails.
Et tous les chiffres ont une importance. Il faudrait les reprendre un par un, mais tous ces chiffres ont une valeur symbolique. 5 portiques, c'est 7 moins 2. 38 ans, c'est 40 moins 2. Tous ces chiffres. Dans une oreille biblique, résonne d'une façon précise.
Et justement, le chiffre 40, c'est une sorte de plénitude, oui. Le chiffre 7 aussi. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il manque quelque chose à la plénitude.
Exactement. Donc, il n'arrive pas à l'accomplissement. 40 est la fin d'une épreuve, que vous en parliez tout à l'heure, les 40 ans dans le désert, les 40 jours de Jésus préludant à son baptême. Le chiffre 40 signifie un aboutissement. Oui, un aboutissement à la plénitude.
Ce qui est frappant aussi dans la suite du récit, Père José, c'est la brièveté des interventions de Jésus. Oui. Veux-tu guérir? Oui. Et puis, lève-toi, prends ton grabat et marche. Oui. C'est finalement réduit un peu au minimum.
C'est d'une sobriété extraordinaire. Aucun développement sur une sorte de miracle retentissant. C'est un geste simple. Lève-toi et marche. Mais les gestes de Jésus sont toujours très sobres.
C'est une parole libératrice.
Ah oui, tout à fait. Libératrice, une remise en route. Cet homme immobile est remis en marche. Et ça, je crois que c'est très important. Lève-toi et marche.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après la première interpellation, « Veux-tu guérir ?», l'homme se justifie. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter et donc je ne peux pas y arriver en quelque sorte. Et Jésus enchaîne, lève-toi, prends ton grabat et marche.
Oui, il y a un contraste en tout cas.
C'est la pédagogie de Jésus.
Oui, tout à fait. Jésus est toujours très sobre et il déteste les démonstrations ostentatoires.
Et puis en plus, ce n'est pas lui qui est le guérisseur, c'est l'homme qui va se lever.
Oui.
C'est l'homme qui trouve en lui la force.
C'est ça. Et il ne retourne pas à la piscine d'ailleurs, il ne passe pas par l'eau. Donc il passe directement de l'immobilité à la marche.
Alors une fois cet homme libéré, eh bien se pose le problème de la légalité.
Oui.
S'il a fait ça, le jour du sabbat, ce n'est pas possible. La loi est plus importante que la vie.
Tout à fait. Et ça, ça a été un des premiers combats de Jésus, c'est de délivrer de l'obsession oppressante de la loi. Une des premières paroles de Jésus, c'est « le sabbat est pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat ». C'est une phrase qu'on ne lui pardonnera jamais. Il relativise le sabbat.
Et redisons une fois de plus à quel point pour les Juifs le sabbat est central.
Tout à fait. Pour ça que je parlais d'obsession tout à l'heure, c'est une véritable obsession le sabbat. Encore maintenant, hein, les Juifs observant, ont un respect du sabbat obsessionnel. J'avais un vieil ami juif qui me disait qu'on ne peut pas faire de feu pendant le sabbat. Eh bien, donc on ne peut pas allumer un interrupteur. Donc le vendredi soir, on allume tout ce qui doit être allumé. Parce qu'on ne peut pas faire du feu.
Toute la discussion du sabbat s'engage. Et c'est le scandale chez les juifs. Ils l'interrogent et le prennent à partie. Il interroge « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ton grabat et marche ». Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en quelque sorte, s'efface. Disparaît.
Oui, il s'efface. Et c'est intéressant de voir que l'homme ne connaît d'abord que le fait qu'il est guéri. Il ne sait pas d'où ça vient. Il ne connaît pas l'origine de sa guérison.
Au fond, Jésus n'est pas celui par qui le miracle arrive, c'est finalement quelqu'un qui a déclenché la force contenue dans cet homme.
Je crois, ce qu'on appelle le miracle, un mot que je n'aime pas, est plutôt la libération dans celui qui en est le bénéficiaire d'une force potentielle, cachée, qui tout à coup se déploie. Il y a en nous des potentialités que nous ignorons et la parole de Jésus libère ces potentialités.
Est-ce qu'on peut dire que cet homme était en quelque sorte recouvert par une passivité, par une attente, et que Jésus vient simplement lui dire « Sois donc actif et lève-toi ».
Oui, tout à fait, tout à fait. L'homme était comme arrêté avant l'accès à la plénitude. Il était à 38, il n'arrivait pas à 40.
Et il a suffi d'une parole.
Une parole. Ah mais ça c'est... Je crois que ce sont les plus beaux gestes de Jésus, ce sont les simples paroles, les plus sobres qui soient.
La toute première parole, Père José, « Veux-tu guérir ?» Au fond, c'est manifestement décisif, cette question. « Veux-tu guérir ?» Et nous pouvons le prendre pour nous, je pense, aussi.
C'est ça. Jésus commence par éveiller ou réveiller son désir vital. Et c'est sur ce désir qu'il va s'appuyer pour lui dire « Alors, lève-toi et marche. » Mais Jésus réveille le désir de vivre.
Une fois de plus, vous dites Jésus, maître du désir.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et un peu plus tard, Jésus le retrouve dans le temple. Oui. Il ne le retrouve pas n'importe où. Et lui dit, te voilà bien portant. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. C'est peut-être un verset qui peut faire difficulté, celui-là.
C'est un verset un peu juif qui lie le malheur et la maladie au péché. Et pourtant, Jésus, à plusieurs reprises, va dire « Mais non, il n'est pas question de péché. » Il le dit à propos de l'aveugle-né, il le dit à propos de Lazare. Il dit « Au fond, la maladie, même la mort, n'est que le champ stérile qui attend l'action de Dieu pour devenir fécond. » La maladie, la paralysie, comme la cécité, sont des appels à la puissance de Dieu.
Des appels à la puissance de la vie et de la vie de Dieu.
De la vie, donc de
oui,
Dieu.
C'est ça.
Pas au miracle.
Vous distinguez vraiment ce jaillissement de vie et le miracle. Oui. Le miracle est spectaculaire et merveilleux, tandis que la vie, elle, est plus profonde.
Oui, absolument. Mais le miracle n'est que la manifestation de quelque chose de plus profond. Et si on s'arrête au miracle, on reste à l'enveloppe.
Au fond, Jésus découvre, dans le sens de découvrir, une puissance de vie qui est là, dormante, latente. Au fond, veux-tu guérir? Est-ce que... Je voudrais bien rejoindre en toi c'est cette puissance de vie.
Le désir. Donc vraiment, pour vous rappeler ça tout à l'heure, Jésus est le maître du désir vital. Et d'ailleurs, il va parler de la vie, un peu plus loin dans le texte.
Oui, il va parler de la vie. Mais disons, sur cette expression, Jésus, maître du désir, je vous propose de faire une première pause musicale. Thank you. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Jean avec le Père José Willibald Michaud. Nous sommes au chapitre 5. Nous avons déjà largement commenté la guérison d'un paralytique à Jérusalem et nous avons vu ce Jésus venir réveiller le désir de vie. Cette simple question qu'il a posée au paralytique, « Veux-tu guérir ?» Et puis l'infirme se perd dans une longue réponse et puis Jésus répond simplement « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Cette parole libératrice. Malheureusement, évidemment, il avait fait ça le jour du sabbat et les juifs, les autorités juives le prennent très mal puisque la loi prévaut sur la vie en quelque sorte. Nous avons vu cette scène et puis l'homme qui a retrouvé Jésus dans le temple, Jésus lui répond, mais l'homme va tout raconter aux juifs. Il va dire que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est là cet homme qui, en quelque sorte soumis aux autorités, va accuser Jésus ou contribuer à accuser Jésus. Au fond, cet homme se met du côté du plus fort.
Sûrement, mais c'est comme s'il s'excusait en disant « c'est pas moi qui me suis guéri, j'ai été guéri par quelqu'un ». Mais il y a aussi quelque chose de très important. Je crois que c'est ici, oui, c'est ça. C'est ici que Jésus, parlant du sabbat, dit « Mais mon Père ne cesse d'agir. » Il oppose, je dirais, la passivité du sabbat à l'activité de la vie en Dieu. Dieu ne cesse jamais de travailler, d'agir, d'aimer. Pour lui, le travail, c'est aimer et créer.
C'est au fond la vie qui ne s'arrête jamais.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et que Jésus vient réveiller.
Et que Jésus vient réveiller, justement. Mmh. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Mmh. Et donc, lui, il met la vie en avant. Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre. Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Donc là, Jésus est en train de se mettre tout à fait en porte-à-faux.
Ah oui, ah mais tout à fait. Et c'est tout à fait lié sa liberté, pas désinvolte, mais sa liberté vis-à-vis du sabbat, qu'il relativise au nom de l'activité permanente de Dieu qui est amour et création. Donc les deux thèmes sont liés.
Au fond, on a un peu l'impression, Père José, que vous êtes en train d'opposer la vie qui est tout le temps active, d'une part, et la loi, d'autre part. Et pourtant, la loi, elle peut être nécessaire pour faire tenir une vie debout.
Mais c'est ça. Mais c'est surtout saint Paul qui en parle. La loi est pédagogue, mais elle n'est que pédagogue. Donc elle est servante d'une liberté à venir.
Et donc ici, les Juifs mettent la loi au premier plan.
Ils absolutisent la loi. Je crois que c'est le problème, c'est le drame du judaïsme, c'est d'avoir divinisé la loi. Je crois que je vous ai passé un jour ce testament de Yossel Rachauer de Tarnopol qui dit à Dieu: je t'aime, mais j'aime encore plus ta loi. Donc, la loi fait écran à Dieu, finalement, dans un certain judaïsme.
Et donc, la loi est en fait un ciment social, mais peut faire écran à la vie.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Ce qui est très intéressant ici, Père José, c'est que vous nous dites que cet épisode de la guérison du paralytique est une sorte de préparation, un petit peu comme un thème musical qui s'esquisse et qui va s'épanouir beaucoup plus tard. Oui. Nous y viendrons évidemment, mais je pense que c'est intéressant de montrer qu'il y a avec l'aveugle-né une parenté en quelque sorte, comme si ceci était une préparation. Comment le voyez-vous?
Mais j'ai même dit tout à l'heure, pour moi ceci est une espèce de brouillon de l'épisode concernant l'aveugle-né. Et je crois intéressant et même nécessaire de lire les deux textes en parallèle. Parce qu'il y a une certaine progression, quoique pourtant la logique, le dynamisme de l'aveugle-né soit beaucoup plus clair. Là, on peut chiffrer les étapes de l'arrivée à la lumière qu'est la loi, qu'est la foi.
Et donc, dans la progression de l'évangile de Jean, il y a quelque chose de musical, de symphonique, oui. Comme si le thème était introduit, oui. Esquissé.
Et il reste enveloppé de mystère, d'obscurité, alors qu'il se développe dans la lumière avec l'épisode de l'aveugle-né.
Est-ce que ce dévoilement progressif n'est pas quelque chose qui peut toucher le cœur de tout chercheur de sens, dans la mesure où justement nous progressons nous aussi dans l'obscurité, comme disait ce poète, avec une lanterne dans le noir, mais la lanterne avance avec nous. Et donc c'est vraiment en lisant de façon cursive l'évangile de Jean, nous allons tout doucement vers la lumière.
Et je crois que l'invitation de Jésus, lève-toi, prends ton grabat et marche, elle s'adresse au lecteur aussi. Le lecteur doit se mettre en route avec ce texte.
Malgré l'obscurité. Peut-être des certains versets qui sont difficiles.
Qui sont progressivement enveloppés. Voilà, je crois que ce texte débouche dans la vie, et même dans la vie absolue, puisqu'il évoque la résurrection. Et dans le discours de Jésus, l'écoute de la parole est un accès à la vie et est une promesse de la résurrection, la voix du Fils de Dieu, qui conduira à la vie absolue et définitive. Je crois que c'est très important que ce chapitre se termine sur la vie.
Oui, et ce qui est extrêmement intéressant dans le morceau que nous avons discuté aujourd'hui, c'est qu'au fond, vous sentez cette résurrection qui pointe, mais en même temps, on sent la montée de la violence. Les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr.
Maintenant, la tension est presque au maximum. Et elle annonce le drame. Le drame d'où va jaillir la vie plus forte que la mort.
Merci Père José, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. Et à vous tous, chers auditeurs, au revoir. Je vous laisse une fois de plus avec Georges-Philippe Telemann, son trio en ut mineur, interprété par Frédéric de Rose et le Richercar Consort. Au revoir, à bientôt. Thank you.